de faire de peine, tout ça. Beaucoup de gens peuvent pas voir leur famille, tout ça. On trouve le temps long, quoi. Je pense pas faire quelque chose de mal parce que je sors pas que pour aller au repas, quoi. La solitude, oui, ça pèse, mais que voulez-vous? C'est pas moi qui commande.
La solitude que Suzanne a vécue dans son EHPAD a probablement été partagée par la majorité des 650 000 résidents dans les 7 500 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du pays. Et pour cause, la population la plus affectée par la pandémie de Covid a été celle des personnes âgées. En Europe, selon le directeur régional de l'OMS, les plus de 60 ans représentent 95% des morts, avec une concentration encore supérieure chez les plus de 80 ans. Prenant cette donnée en considération, le gouvernement a donc imposé aux EHPAD un confinement plus long. Malgré ce confinement plus rigoureux, on estime à 10 000, soit environ un tiers du total, le nombre de décès dans ces établissements. 10 000 morts auxquelles il faut ajouter celles dues aux conditions du confinement. Certaines personnes âgées se sont littéralement laissées mourir. On parle de syndrome de glissement. En raison de l'isolement, de l'absence d'activité et de visite, de l'absence même de contact au sein des établissements où les repas n'étaient par exemple plus pris en commun.
Ça sert à rien de les préserver du Covid si on les fait mourir d'ennui, dans un désert affectif total.
Pour les personnes décédées à domicile, on ne dispose pas de données précises. Mais le confinement les a également fortement affectées. Privées de visites de leurs proches, avec des aides à domicile dont les passages étaient rendus moins nombreux et moins réguliers par les conditions du confinement, le syndrome de glissement a également fait des ravages dans cette catégorie de la population.
Bonjour monsieur, comment ça va?
Ça va.
Bon, vous êtes seul?
Ma voisine va monter.
D'accord.
En cette fin d'été, Géraldine Allot et Lucien Lefebvre ont suivi un médecin généraliste du Lot-et-Garonne qui, précisément, a lancé l'alerte sur la condition des personnes âgées à domicile. Mais auparavant, il s'était immergé dans un EHPAD public territorial à Pleumartin, un bourg de 1500 habitants au nord-est de Poitiers, dans la Vienne. C'est là que commence leur reportage, la double peine des personnes âgées face au Covid.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
Bonjour. On n'a pas encore sonné.
Excusez-moi. Enchanté.
Vous êtes le directeur.
La personne que vous avez au téléphone.
C'est une maison de retraite à taille humaine, 55 résidents et une quarantaine de salariés. Toutes les chambres sont en rez-de-jardin, c'est-à-dire que les résidents ont tous un petit bout de verdure quand ils ouvrent leur porte-fenêtre.
Petit protocole du matin. Température, on s'inscrit, mettez votre nom, votre heure d'arrivée, votre température. Si vous avez pris de l'aspirine, du paracétamol, vous cochez. Et puis après, un petit coup de gel hydroalcoolique. Et puis c'est bon.
Eric Angelo Bellini, vous êtes le directeur de l'EHPAD des Rousselières, donc de la maison de retraite des Rousselières, ici à Pleumartin. Il y a tout un protocole à respecter en temps de Covid. C'est quoi exactement?
Il faut inscrire son nom, dire sur le registre des familles, vous voyez, un peu différent du registre du personnel. La date d'arrivée, l'heure, qui ils vont voir et à quelle heure ils partent. Donc il faut leur expliquer tout ça, leur redire que les gestes barrières sont encore plus d'actualité. Donc c'est vrai pour tous les visiteurs, c'est vrai pour le personnel qui s'inscrit depuis 6 mois, tous les matins, en arrivant, en partant.
C'est plus du tout la même maison de retraite qu'il y a un an, en fait. Non. Là, tout a changé.
Aujourd'hui, depuis 6 mois, nous faisons, je vais le caricaturer, quasiment l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire que l'établissement, d'habitude, c'est pas une réserve indienne, c'est un lieu de vie, donc c'est ouvert sur le monde extérieur. C'est pour ça qu'il y a des entrées de tous les côtés, qu'on organisait dans l'établissement concerts de jazz, soirées, cabaret, représentations du cirque, enfin voilà. L'idée, c'était, c'est ouvert, venez. Les résidents sortaient comme ils voulaient, pour ceux qui le pouvaient. Vous venez, y compris les familles, quand vous voulez, enfin le matin, l'après-midi, voilà. C'était l'idée, c'est ouvert. Et c'était même, à travers un certain nombre de choses, faire venir le village, faire venir le bourg dans l'établissement.
Là, c'est plus le cas.
Depuis six mois, c'est, on est bunkerisé. Les visites de proximité, de voisinage sont interdites. C'est-à-dire que les familles qui allaient voir leur père, leur mère, leur grand-père, leur grand-mère, mais aussi la voisine, la voisine, parce qu'au fil du temps, il y a eu des liens qui se sont tissés. Ben non. Vous allez voir le membre de votre famille et pas ceux d'à côté. En mai, c'était les portes incendies étaient fermées, l'établissement était coupé en trois unités de vie. Enfin, c'était le personnel se croisait pas, ils arrivaient décalés en fonction des unités de vie. Enfin, on a vécu un truc complètement quand on y réfléchit, ouf, hors sol. Enfin, je veux dire, voilà, la bonne nouvelle, c'est que on sent bien que on n'est pas à l'abri d'y retourner, quoi. Donc ça, c'est.
Morgane, vous préparez les petits déjeuners. Là, on voit chocolat chaud, du pain.
Ils ont au choix. Ils peuvent avoir du chocolat, ils peuvent avoir un café au lait, ils peuvent avoir un café simplement. Ils ont du thé. Ensuite, il y a le pain, il y a le pain de mie, il y a les biscottes. Et tous les dimanches, ils ont en plus une pâtisserie. Donc la petite dame qu'on va aller voir, elle a eu 100 ans cette année. Donc elle a un petit peu dur de la feuille, comme on dit. Bonjour Madame Gaillard.
Bonjour, madame.
Comment allez-vous? C'est la radio, ils viennent parler du confinement. Ah, je vous ai dit que vous aviez eu 100 ans cette année. C'est un bel âge.
C'est un bel âge, je vous dis. C'est chaud?
Oui. Je viens juste de le servir.
Vous avez eu 100 ans?
23 juin 1920. J'étais chez moi. Jusqu'il y a 2 ans, et je suis venue ici il y a 2 ans. J'ai perdu mon mari il y a 10 ans, et je me débrouille encore, ça allait. Je conduisais encore ma voiture, jusqu'à 90 ans, je conduisais ma voiture. J'ai jamais eu d'accident, jamais rien. Et par précaution, j'ai vendu ma voiture, parce que j'ai dit, t'auras plus de voiture, tu sortiras plus. Ça fait mal aussi.
Comment vous avez vécu, Eliane, toute cette période où vous n'avez pas pu voir votre famille?
Non, si on est confiné, c'est une question sociale, c'est tout. Faut l'accepter. Hein. Mais enfin, bon, c'est dur. C'est dur parce que je me rends compte que les gens ne font pas ce qu'il faut. Si vous êtes confiné, il faut être confiné, puis c'est tout. Faut pas, si vous mettez un masque, on met un masque. Mais c'est pas sérieux.
Et ce virus, le Covid, vous en avez peur? Est-ce que c'est quelque chose?
Non, mais je n'ai pas peur d'une épidémie. Une épidémie, ça se soigne, c'est pas la question. J'ai des présidents des anciens combattants à la Roche-Posay pendant 50 ans. Hein. Alors, vous savez, j'ai fait du travail. Puis j'ai tout laissé tomber. Je ne pouvais plus.
Vous vous êtes engagé pendant la guerre, c'est ça, la Seconde Guerre mondiale?
Oui. Résistance. Maquis. On a été dénoncés, on a eu 42 jeunes gens qui ont été assassinés. Ça marque, vous savez, quand vous avez 20 ans, ça vous marque. 42 jeunes gens qui avaient l'âge de mon frère, là. Il a fait de la résistance aussi, lui. Et puis, il est mort dans un bombardement. Mort pour la France. Ça marque.
À côté de ça, le virus ne vous fait pas peur?
Ben non, c'est une maladie, ça va se combattre, ça. Faut se résoudre à faire ce qu'il faut, puis c'est tout. Enfin, moi, j'ai fini mon temps. Alors, vous savez, j'ai pas peur de grand-chose. Faut pas avoir peur de la vie. Faut affronter.
Morgane, vous êtes donc agent hospitalier ici à la maison de retraite de Pleumartin. Qu'est-ce que le virus change dans votre façon de travailler? Alors déjà, vous avez un masque.
Oui, ah oui, obligatoire. Après, c'est le rapprochement que nous avons donc avec les résidents. Faire attention quand on entre de bien se laver les mains, de toujours avoir le masque. Après, de leur part aussi, c'est faire attention à ce qu'ils touchent, le contact qu'ils ont avec les autres résidents, car au bout d'un moment, ils sortent de leur chambre. Mais on ne sait pas si les autres résidents peuvent avoir contracté le virus ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment faire attention, les poignées de porte, les rambardes quand les résidents se lèvent pour pouvoir marcher. Faire vraiment attention à tout ce qui touche et désinfecter pour pas qu'il y ait de problème derrière.
Vous ne pouvez plus les toucher, les résidents?
On les touche, mais nous prenons quand même des précautions. Donc nous avons nos gants également. Des fois, certaines, comme vous avez pu voir, Françoise et Christiane aiment bien toucher. Ça les rassure. On leur dit, non, Christiane, Françoise, vous savez que par rapport au Covid, nous avons une certaine distance à avoir. Ah oui, c'est vrai. On s'excuse, mais elles le savent, elles le comprennent.
Donc contact réduit au minimum.
Contact réduit, ouais, tout à fait.
Ça change le boulot.
Ah ben oui, parce qu'on est là pour le relationnel. Donc quand ils vont pas bien, ils ont un petit coup de blues, un petit câlin, une petite accolade. Ça les rassure, tandis que là, ça va être que le verbal, et on le sent des fois. Bon, bah, ça va mieux, et quand vous sortez, vous voyez que leur mine devient un petit peu fermée, et il manque ce petit geste encore entre nous à cause de ça. Ils n'ont pas leur famille ici, H24, donc en fait, on devient leur famille. Donc du coup, ils se raccrochent à nous, et dès qu'ils sont tristes, ils prennent notre main, ils cherchent quelque chose à se raccrocher. Et le fait de ne pas le faire dans certains cas, c'est pesant, parce qu'on n'a pas l'impression d'être là à 100% pour eux, quoi. Donc c'est pesant pour nous.
Emma, là.
Je mets une rubalise devant la chambre de Madame Hérault pour que tout le monde soit prévenu qu'il faut mettre une surblouse et gants obligatoires avant de rentrer, vu que Madame Hérault était en sortie hier en famille.
Et donc là, il va falloir qu'elle soit testée, c'est ça?
Normalement, oui.
Et donc vous signalez sa chambre avec un ruban, comme un ruban de police?
C'est pour, oui, prendre toutes les précautions pour que les résidents soient tous en sécurité.
Bonjour.
Bonjour.
On est les journalistes.
Vous n'avez pas ailleurs un œil parce que j'ai besoin de vous communiquer aussi.
Vous voulez qu'on repasse plus tard?
Oui.
À tout à l'heure.
Oui, entendu. Elle est partie, Janine. Madame est partie.
Ah, elle a raccroché votre amie?
Oui.
On va passer sous le ruban alors.
Et ma fille.
Lucienne.
Oui.
Vous allez avoir 102 ans demain.
Oui.
Vous êtes la doyenne de la maison de retraite.
Ah oui. C'est une affaire.
Et comment vous allez?
On en a marre, hein? Vraiment, on n'a pas de liberté. Vous voyez, hier, j'étais partie en famille, puis c'était mon anniversaire. Eh bien, aujourd'hui, je n'ai pas bougé la maison, je crois que je vais rester 8 jours, là. Sans sortir, hein?
Comme vous êtes allé à l'extérieur, on attend de voir que vous soyez testé, c'est ça, pour voir si vous avez le virus?
Ben oui, c'est ça. Hier soir, quand je suis arrivée, ils ont porté toutes mes choses là-bas. Même ma bicyclette, moi j'appelle ma bicyclette, que je ne peux pas marcher sans ça. Puis ils me l'ont remise ce matin.
Ils ont pris toutes vos affaires, ils les ont nettoyées.
C'est comme ça, monsieur, dame.
Pour les résidents des EHPAD, l'incompréhension des mesures nécessaires à leur protection a souvent été traumatisante. Au point que certains ont vu leur état régresser dans les domaines de la motricité ou du langage. On parle parfois de déficit d'éloquence. On retrouve Géraldine Allot en tournée avec Fabienne, la lingère de l'établissement.
Bonjour Madame Saint-Pierre.
Bonjour Monsieur Dame.
Comment ça va ce matin?
Très bien. Bon. J'ai très bien dormi.
Ah bon? Bon bah c'est parfait alors.
Là il n'y a pas de bruit hein,
c'est
dans
vrai.
Le couloir.
C'est vrai. Je vous prends ça?
Oui. Vous m'apportez rien?
Tout à l'heure, je vais vous rapporter votre linge propre.
Elle est épatante. On voudrait pas en changer pour tout l'or du monde.
C'est gentil. Je vous prends ça, Madame Saint-Pierre? C'est sale ou pas?
Non, c'est pas sale.
La petite chemise aussi?
Ah non, ça, vous lui prenez. Mais elle connaît mieux mon linge que moi. Elle est épatante pour ça.
Vous connaissez le linge des 55 résidents?
Bah oui, hein, plus ou moins. Après, il y a les nouveaux, bon, ceux qui viennent d'arriver un peu moins, mais ceux qui sont là depuis un moment, je sais en le voyant à qui c'est, quoi. Bon. À plus tard?
À plus.
À tout à l'heure, je vous ramène votre linge propre.
Et bon courage.
Merci. On arrive dans la lingerie où je trie le linge du côté linge sale.
Qu'est-ce que l'épidémie change dans votre façon de travailler?
La désinfection, déjà, quand les gens sont susceptibles d'avoir le Covid, qu'ils ont été hospitalisés, là, on met le linge à part dans des sacs hydrosolubles et là, je le désinfecte à part de l'autre linge des résidents, quoi. On a toujours peur hein, que le virus rentre, même encore maintenant, quoi. C'est ça le problème, quoi. On y pense encore, même qu'on n'est plus confiné, encore plus même, parce que il y a beaucoup plus de visites et tout ça, donc ça peut encore plus rentrer, quoi.
À titre personnel, comment vous vivez cette période ?
Disons que là, je m'y suis un peu plus habituée. Au début, je ne l'ai pas très bien vécu. On a peur de perdre les résidents, que ça rentre et qu'on ait plein de morts, comme on a vu à la télé. Voilà, quoi.
On sent ému. C'est voilà. Une grosse responsabilité de travailler en EHPAD, finalement.
Ouais, c'est ça. Enfin, on veut pas être celui qui va faire rentrer le virus, quoi.
Ça change quelque chose, du coup, dans votre vie personnelle ? Vous faites attention ?
Ah oui, Oui, je fais beaucoup plus attention. Déjà, on ne s'embrasse plus, on garde nos distances. Oui, ça... Et je fais beaucoup plus attention parce que je travaille dans un EHPAD, quoi. J'ai pas envie de le ramener ici, quoi.
Dans tous les couloirs de la maison de retraite, dans le moindre recoin, il y a des distributeurs de gel hydroalcoolique. Et à l'entrée, des masques à usage unique sont mis à la disposition des visiteurs. C'est l'heure du déjeuner, donc on va aller voir le menu. Aujourd'hui, c'est salade de lentilles au lardon, alouette de bœuf avec du gratin dauphinois, plateau de fromage et une glace en dessert.
Bon appétit, mesdames. Et la dernière, Yvette. Voilà, très bien.
Alors, à nous. Voilà. Vous avez encore mal à l'œil ou ça va ?
Non, ça va mieux.
Ah, je vous ai sauvé.
Oui.
C'est celui-là, hein ?
Oui.
Voilà. Oui, alors c'est pas les mêmes, vous. Ça va bien. Voilà. Là, je retourne à la salle.
Nathalie, vous êtes infirmière ici à la maison de retraite de Pleumartin.
Oui.
Vous avez peur d'un rebond épidémique important ?
Oui. Moi, je pense qu'en septembre-octobre, ouais, c'est fort possible. Et là, au niveau des résidents, faut... Alors, maintenant, on sait faire. Je dirais qu'il y a plein de choses qu'on sait faire qu'il va falloir juste rappeler. Mais va falloir être hyper vigilant. Puis c'est les familles. La gestion des familles est le plus compliqué, finalement. Parce que le personnel, maintenant, il est imprégné. Enfin, en même temps, je leur répète tous les jours la même chose. Donc, le personnel, ça y est, on voit qu'il y a des habitudes, les flacons de désinfectant qui sont sur les mains courantes. Enfin, il y a des choses qui ne trompent pas. Moi, je remplis régulièrement les flacons. Ça, c'est des indicateurs qui me disent que les gens se servent de la solution hydroalcoolique, se servent des désinfectants. Parce que, il y a des choses qu'on ne voyait pas avant, que maintenant, ça y est, c'est ancré. Les familles, on a du mal à faire... Alors, pas toutes. Hein. On a certaines familles, c'est compliqué. Ils comprennent pas que le virus, il ne se voit pas. Ils se rendent pas compte que quand ils touchent ou quand ils mettent pas le masque, ça met en danger leurs parents. Mais ça, non.
Interception.
Je compte sur vous pour prendre soin des plus vulnérables de nos compatriotes.
Sur France Inter.
Ne pas rendre visite à nos aînés, c'est, et j'en ai bien conscience, un crève-cœur. C'est pourtant nécessaire, temporairement.
On vous retrouve, Eric Angelo Bellini. Vous êtes le directeur de la maison de retraite de Pleumartin. Comment ça va, en cette période d'épidémie qui n'en finit pas ?
Ça va, quoi. Jusqu'à là, tout va bien. La satisfaction, c'est que jusqu'à là, aujourd'hui, 11h34, on n'a pas de virus dans l'établissement. Il n'y a eu aucun cas Covid dans l'établissement, ni chez les résidents, ni dans le personnel.
Pas de décès ?
Bah, on a eu deux décès, mais liés à la vie, puisqu'en définitive, ce qui est mortel, c'est la vie. Voilà, on a eu deux décès pendant la période de résidente qui étaient au bout de leur chemin et qu'on a accompagné le mieux possible dans les circonstances. Le challenge, c'est de continuer de vivre. Le confinement, c'est on s'enterre, on ferme, on se bunkérise, on laisse tout dehors et on se dit qu'on va survivre. Biologiquement, on va survivre, mais socialement, psychologiquement, on meurt quand on s'enferme. La difficulté, c'est cet équilibre permanent entre la sécurité sanitaire, médicale, biologique, et puis la vie mentale, psychologique, morale des résidents. C'est de trouver un équilibre. Ça sert à rien de les préserver du Covid si on les fait mourir d'ennui dans un désert affectif total. Pourquoi on a confiné ? Parce qu'au moment où la crise arrive, nous, on doit avoir, ça je peux être très précis, on a 57 masques chirurgicaux dans l'établissement. C'est moins que ce qu'il nous faut en une journée si on veut que tout le monde en mette. Après, les couturières de Pleumartin et la population a été extra. Donc très vite, on a eu des masques en tissu. On a dû en garder qui étaient absolument incroyables. On a eu des masques avec des bonnets de soutien-gorge. On a eu des choses... C'était pas facile de respirer avec, mais au moins, ça protégeait. Nous, on a tenu parce que, par exemple, les premiers masques FFP2 qu'on a eu, c'est le vétérinaire du bourg qui les a donnés. Il a bien compris l'urgence de la situation. Et il est venu un matin en disant, bon, voilà, je vous les file. Vous en avez plus besoin que moi. Cadeau.
Donc ça, c'est l'aspect positif de l'épidémie. C'est-à-dire que vous avez eu des renforts en personnel. Vous avez eu la solidarité. On vous a livré des masques. Est-ce que le risque, il n'est pas maintenant où il y a une forme de relâchement, il y a une forme de fatigue et que du coup, jusqu'à présent, vous n'avez pas eu de cas Covid. Est-ce que le risque, il n'est pas plus maintenant?
Bien sûr. Le risque, il est tout aussi important aujourd'hui que le 3 mars. Il n'a pas diminué, le risque. Il s'est arrêté quand il y a eu le confinement global, qui était quand même une période hors sol, enfin, je veux dire, je pense pour tout le monde, mais ici, encore plus. Ce qui est différent, c'est la perception du risque socialement. Et c'est tout le débat actuel. C'est-à-dire qu'on voit bien que le relâchement, c'est pas du relâchement, c'est de la lassitude. C'est-à-dire quand tous les jours, vous êtes contraint. Moi, on voit bien le débat sur est-ce qu'il faut mettre le masque dans les transports ou pas. Je pense que les arguments du style « oui, mais on nous a dit que ça servait à rien, ça entrave ma liberté », bah essayez le respirateur, vous allez voir si ça entrave moins votre liberté. Tout ça, c'est complètement hors sujet. La vraie difficulté, c'est qu'on est usé par ça. C'est-à-dire que on se rend compte qu'on est face à un virus, qu'il n'y a pas de vaccin, que la couverture collective d'immuno-collective, elle est ridicule, et que donc faut à un moment ou à un autre, va falloir aller danser avec lui et puis voir comment ça se passe. Si ça se passe comme pour la 90-95% de la population, bah ça va aller quoi. Le nez qui coule 2 jours, la gorge qui gratte 3 jours, et puis ça sera fini. Voire pour certains, ils s'en rendent même pas compte. C'est les 5-6% pour qui ça se passe pas bien, qui sont, eux, plus compliqués. Et nous, on a nos résidents, c'est ceux-là, quoi. Nous, le virus, il rentre là-dedans, c'est un strike.
Donc là, il est 14h et c'est l'heure du début des visites. Elles ont lieu entre 14h et 17h. Depuis la levée du confinement, chaque résident peut recevoir à nouveau des visiteurs dans sa chambre, mais c'est 2 visites maximum par semaine. La direction encourage les visites à l'air libre, sous les tentes installées à l'entrée.
Et du coup, la date d'aujourd'hui avec votre signature ?
Il n'y a pas de visite le dimanche, car il n'y a pas assez de personnel pour les encadrer. Nous sommes devant la chambre numéro 1, c'est la chambre de Joseph qui reçoit cet après-midi la visite de sa fille Elisabeth.
Bonjour.
Il est sourd, il faut...
D'accord. Bonjour.
Bonjour.
Alors comment ça se passe pour vous ces visites en temps d'épidémie ?
Oh, c'est très dur. Il est très confiné et ça c'est dur. Très dur.
On fait ce qu'on peut.
On ne peut pas l'embrasser, on peut pas. Si je le sors, je ne peux pas le sortir non plus, parce que si je le sors, après il aura 5 jours de confinement à la chambre. Donc c'est pas possible. Oui. Heureusement, j'habite pas loin, j'habite à 5 km, donc c'est bien. Je viens souvent, j'aime plus que je peux. Et en fait, c'est hyper dur, parce que bon, moi, j'en accepte tout, mais ça commence à peser lourd, même pour lui. Il parle pas beaucoup, mais le peu qu'il a dit, il dit « je m'en fiche, mais moi, je veux voir ma fille ».
C'est difficile pour vous, j'imagine, de ne pas pouvoir embrasser votre papa,
voilà,
pas pouvoir
c'est,
le toucher.
Oui, ça manque déjà. Chacun, sa famille, à ses enfants, quand j'ai embrassé les miens, quand j'ai pu aller retourner dans le Nord, mon Dieu, j'ai enserré pendant 5 minutes, mais là, quand je vais l'embrasser, je vais mettre 10 minutes, quoi. C'est un truc qui manque, le toucher manque. Mais on peut pas faire autrement, de toute façon. Il y a des règles, il y a des lois, et ben, il faut le faire. Je reste à cette distance qui est correcte. Si jamais je fais de mots croisés avec lui, ben je m'approche, mais bon, je vais toujours faire attention au masque. Il est sourd, il n'entend pas, mais il regarde aussi les lèvres un petit peu. Ça aide aussi à une personne âgée de voir les lèvres bouger. Et là, ben, il ne peut pas. Donc je suis obligée de parler encore plus fort. Enfin voilà, tout change et puis on sait que ce n'est pas prêt de finir.
Ça fait long en fait.
C'est très très long.
Et comment il vit cette période selon vous? Est-ce que vous trouvez qu'il régresse un peu, qu'il perd un peu en autonomie?
Le problème, c'est qu'il a régressé. Parce qu'en fait, je fais des mots croisés avec lui, je fais du tangram avec lui, c'est un jeu, avec ces formes géométriques qu'il faut replacer pour faire des dessins. Et là, je leur ai fait 2 jours, et il n'arrive pas à les faire. Mais il n'y arrive plus du tout. Je me dis, est-ce que ça va revenir? Je ne sais pas. On essaiera un mot croisé tout à l'heure, après, juste après. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il faut. Ça va? Sur le bras? Ça coince? On coupe ou on coupe pas?
On essaye de faire quelque chose.
Ouais, bah ouais. Ouais, ça va aller.
Vous allez bien?
Oui, oui.
Oui, ça va. On fait la couleur aujourd'hui?
Oui.
Bon, très bien. On va faire la racine seulement.
Bien.
Parce qu'après, j'ai peur que ça les abîme de trop et qu'ils
D'accord.
soient trop clairs. D'accord?
Oui. Oh, oui, tout à fait.
Comment vous vous appelez?
Élodie.
Voilà. C'est vous qui avez manqué le plus aux résidents, non? Pendant le confinement.
Je sais pas. Madame Dupuis, est-ce que je vous ai manqué?
Bah oui, parce qu'on a l'habitude, quoi. Ça se fait pas tout seul, hein, les mèches, tout ça. Puis j'ai eu l'habitude, j'ai continué là. Avec des cheveux blancs, ça me plairait pas. Je les ai jamais vus, les cheveux blancs.
Madame.
Je les ai jamais vus, disons.
On a l'âge qu'on se donne, comme on dit. Même depuis, vous avez toujours été coquette, vous,
ah
tout
oui.
le temps, vous avez pris soin de vous. Hein.
Oui, oui.
Toujours bien habillée, bien coiffée. Puis bon, elle a un bon cheveu qui se remet bien. Bonjour Madame Fleury.
Bonjour, vous êtes?
C'est Isabelle.
Ah oui.
Je viens vous chercher ce matin parce que je sais que vous aimez bien les petites activités où on bouge, vous savez.
Ah oui.
La gym douce.
Alors ça, vous allez bien, Isabelle.
Ah ah.
Alors ça, je vous approuve, moi. Là, alors.
Alors, on y va.
Ma cape.
Oui.
Et mon mouchoir, surtout.
Oui.
Ça va, ma petite Isabelle?
Moi, ça va bien. Et bon. Vous?
Oui. Alors, Isabelle, vous savez combien j'ai ce matin?
Non, dites-moi.
1,30.
1,30. Parfait.
Oh, Isabelle, je suis tellement gourmande.
Vous faites attention quand même.
Malheur. Ah bah oui, alors. Si vous saviez, Isabelle, quand je fais attention. Mais c'est surtout, Isabelle, quand on prend l'apéritif. Eh, mon Dieu. Un petit peu, hein?
Oui.
Un petit peu, hein?
Et ça fait monter le diabète, ça?
Ah oui,
l'apéritif?
Ah bah oui, oula.
Alors, pas d'excès, hein. On aurait une occasion aujourd'hui de prendre l'apéritif.
Ah oui, et moi, après-demain, j'ai 80.
Alors, vous, après-demain, aujourd'hui, Madame Hérault, 102 ans.
Oh, moi, je vieillis, Isabelle, moi, pareil.
Ah bon? Ben oui.
Ah oui.
Allez, on y va.
Ah oui. Ah oui. Ah, vous avez bien fait de venir me chercher. Là.
Alors, on va se mettre en arc de cercle, madame. Alors, en général, on commence par quoi?
Par les mains.
Par les mains. On les ferme?
On les ferme?
On les ouvre.
On les ouvre.
Alors après, les poignets. Alors, on imagine qu'on a un plateau dans les mains.
Ah bon?
Et qu'on le met par terre.
Alors, on porte le plateau, là.
Voilà, comme ça, oui.
Ah, on peut le porter comme ça.
Attends, je t'en prends le remplir, c'est le plateau.
Je n'ai rien dessus,
ça peut aller.
Tes cours de motricité.
Voilà. Alors, histoire de se mobiliser un petit peu.
Un petit rond.
De faire des mouvements que l'on ne fait pas le reste de la journée.
L'idée, c'est de dégourdir les membres, les
voilà,
mains.
De les utiliser, de garder un petit peu d'autonomie, de force dans les membres. Et puis aussi, on fait des jeux d'adresse.
C'est d'autant plus important en ces temps d'épidémie où les résidents ne peuvent pas sortir à l'extérieur et où les déplacements sont contraints.
Ah ben oui, on a été très restreints. Surtout qu'à cette époque-ci, on fait beaucoup de balades, de sorties, normalement, voilà. C'est la saison où on sort le plus, on va au bord de l'eau, on prend l'air, on fait des efforts pour monter dans le bus, on fait des efforts pour marcher plus qu'à l'habitude, sur des textures, qu'on... c'est pas les couloirs hein, quand on est dehors. Donc oui, tout ça, c'est moindre cette année, beaucoup moins.
Est-ce que vous avez l'impression que depuis le début de l'épidémie, certains ont perdu en motricité?
Alors oui, et peut-être ceux qu'on n'attendait pas, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà encore... autonomes au niveau de leur mouvement et qui ont beaucoup moins marché. Et oui, ils ont perdu beaucoup plus.
Est-ce que c'est réversible?
Je pense, oui. Je pense qu'on peut récupérer. Ils ont eu de nouveau de la kiné. Et puis voilà, avec les trajets quotidiens, aussi bien aux activités qu'à la salle à manger, oui, je pense que c'est réversible. Oui.
Qu'est-ce que ça vous apporte, madame, ces cours de motricité?
Je ne sais pas si je parviendrai à faire quelque chose que je peux plus faire, que de tenir même ma fourchette ou mon couteau, me tenir debout. Je peux pas marcher. Faut que je me tienne quelque... Parce que j'ai peur de tomber. J'ai plus peur de ce qui pourrait m'arriver que de ce qui m'arrive.
C'est important, là vous avez du mal à bouger vos mains, d'essayer oui. de continuer à solliciter vos muscles.
Ça me gêne parce que je ne peux plus écrire. Je ne peux plus dessiner, ce qui était mon point fort, mon métier. J'étais dessinatrice. Et ça, je ne peux plus. J'aimais beaucoup faire de la couture, faire de la broderie, du crochet, tout ce qui était travail manuel. Pas plus.
Comment allez-vous, Étiennette?
Écoute ça. Ça va un petit peu mieux parce que on voit nos enfants. Ça a été épouvantable. Pour moi, je l'ai mal vécu. J'arrive à 100 ans et j'ai jamais vu les épidémies comme ça. Là, ça a été épouvantable. Parce que pas voir sa famille, pas voir... Être enfermé dans sa chambre, manger dans sa chambre toute seule, oh non. Je ne voudrais pas repasser une autre comme ça. Je m'ennuie mourir.
Vous préféreriez mourir qu'être à nouveau confiné?
Ah oui. Ah oui, j'aimerais mieux mourir. J'ai eu des moments de chagrin, beaucoup. Quand on mange toute seule ici, et qu'on sent les autres à côté eux aussi qui mangent toute seule, C'est triste. C'est triste. On ne peut plus sortir, on ne peut pas aller. Le dimanche matin, il y a le marché, là, sous les halles. On ne peut pas y aller. Je dirais qu'on est puni.
Mais c'est pour vous protéger du virus.
Oui, je comprends bien aussi. Enfin, du virus. Il y en a toujours du virus.
De quoi avez-vous envie en ce moment, Étiennette?
J'aurais envie de sortir un petit peu, d'aller me promener un petit peu, parce que je ne peux plus marcher, alors il faut me pousser. Mais de me promener un petit peu, ça change.
Sentir l'air sur la peau?
Oui. Ça remonte les idées un petit peu.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Étiennette?
Je voudrais mourir. Je ne verrai plus rien. C'est ça que je voudrais. Mais on ne meurt pas quand on veut.
Bonjour.
Tiens, ça c'est la mienne.
Bah oui.
C'est à tort. Oh, c'est ma chatte, ça.
Oh, elle est mignonne.
Ouais. Oh oui, quand elle veut. À tort, où tu vas?
Faut pas que ça dure longtemps. Hein.
Ah non, non, non. Bah ça dépend. Le matin, c'est le gros câlin avec moi. Oui, puis avec les masques, ça l'a perturbée énormément. Ah. Elle reconnaissait plus l'infirmière, ni rien. Ah. Hein, chérie? C'est pas bien les masques. Hein.
S'il vous plaît, Isabelle.
Oui, Mme Péroné.
J'avais demandé à quelqu'un si on pouvait me passer une ou deux cigarettes.
Tant que ça, deux à la fois, vous les fumez par deux?
Vous n'avez pas honte à votre âge?
Oh non, moi, aucune honte.
Vous avez raison. Puis qu'est-ce qu'on risque à nos âges?
Bon, c'est ça, hein.
La solitude dans les EHPAD a été une véritable épreuve. Mais que dire de celle des personnes âgées à domicile? Là, pas de statistiques disponibles, mais entre celles dont les soins ont été retardés et celles qui n'ont plus eu une seule visite, celles dont les aides à domicile ne pouvaient plus passer ou plus aussi régulièrement, on sait que la pandémie a aggravé leur état.
Bonjour.
Jean-Marcel Mourgue est l'un des médecins généralistes qui ont attiré l'attention sur ce problème majeur.
Ne vous inquiétez pas, c'est propre. A été soumis à la désinfection, au protocole habituel, tous les matins et plusieurs fois par jour.
Vice-président de l'Ordre national des médecins, il exerce dans le sud-ouest, à Pujol, Lot-et-Garonne, où nous retrouvons Géraldine Allou.
Interception.
Allez, c'est tout beau, tout propre.
Sur France Inter.
La question des personnes âgées à domicile, comment vivent-elles cette épidémie?
Alors, ces personnes âgées ont vécu fort différemment cette épidémie. Nous sommes dans une région où le confinement et les mesures barrières ont été appliquées suffisamment tôt pour éviter une grande déferlante, contrairement au Grand Est, à l'Île-de-France et Hauts-de-France. En revanche, cette situation a généré bien des problèmes en termes de parcours de soins, proprement dit, avec des retards de prise en charge, et aussi parfois une profonde solitude, avec une génération de seniors isolés et qui n'étaient pas en possibilité de fréquenter soit par les recommandations sanitaires, soit par l'éloignement géographique, leurs enfants et petits-enfants. Il y a des âges, des 70-80 ans, parfois plus tôt encore, où les mois dans l'esprit des gens comptent plus que pour les plus jeunes, et où être isolé, ne pas pouvoir fréquenter ses enfants, voir ses petits-enfants pendant de longs mois, sans certitude quant à la reprise d'une vie sociale, pèse très lourd.
Donc finalement, ici, ce n'est pas le Covid qui a fait le plus de victimes, mais il a fait des victimes collatérales.
Il a fait des victimes collatérales, par exemple, dans la désorganisation du système de soins, puisque les hôpitaux, dans l'incertitude, ont dû appliquer des plans blancs, et que nombre de consultations et de prises en charge ont dû être reportées sine die, et que, à la période du déconfinement, la remise en route de ces parcours de soins a été souvent chaotique.
Bonjour.
Bonne année. Bon, comment allez-vous alors aujourd'hui?
Eh bien, ça va, j'attends avec impatience mon rendez-vous.
Auprès de l'oncologue
De l'oncologue à Toulouse.
Toulouse. Et vous avez le rendez-vous,
Le 4 septembre.
D'accord.
On m'a pris en urgence.
Quel âge avez-vous?
J'ai 77 ans.
Qu'est-ce que le Covid a changé dans votre parcours médical?
Je devais avoir un rendez-vous au mois de février, donc le Covid a retardé ce rendez-vous pour une chirurgie. J'ai eu rendez-vous au mois de juin. Et là, on a découvert une tumeur.
Donc le Covid a retardé le début de votre chimiothérapie de plusieurs mois?
De plusieurs mois, depuis... Oh oui. Et oui, parce qu'on me l'aurait découvert au mois de février-mars.
Jean-Marcel Mourgue, est-ce que vous avez d'autres patients qui sont dans cette situation-là, savoir un retard de diagnostic lié au coronavirus?
Il y a des retards de dépistage, de diagnostic, voire même, hélas, des retards de prise en charge de soins sur des maladies avérées et en évolution.
Ça vous préoccupe?
Oui, c'est préoccupant, c'est d'autant plus qu'on n'a pas repris le cours normal des choses et que les difficultés d'accès aux soins et du parcours de soins que nous connaissions avant la pandémie se sont aggravées du fait de cette pandémie. Donc on a des conséquences qui sont tout à fait réelles.
Notamment et surtout chez les personnes âgées.
En particulier, tout à fait, mais pas que. Toutes les classes d'âge, à des degrés divers, peuvent être concernées. Alors, c'est au 4.
Alors. Donc là, on arrive, Jean-Marcel Mourgue, chez l'un de vos patients. On est dans une zone, Villeneuve-sur-Lot, où la population est assez âgée.
Celle du département, de façon plus générale. Ce qui caractérise un département comme celui-là, même s'il n'est pas le seul, c'est effectivement l'âge moyen de sa population qui est âgée.
Ces personnes-là ont été d'autant plus vulnérables au plus fort de l'épidémie, et même encore aujourd'hui.
Tout à fait, c'est d'autant plus qu'un bon nombre d'entre elles ont perdu, pour les raisons de confinement, les aides à domicile temporairement. Ce qui les a isolés un peu plus encore.
Exactement, monsieur. C'est une honte, d'ailleurs. C'est une honte d'avoir laissé les personnes âgées sans aide ménagère. C'est une honte.
Vous avez quel âge, madame?
78 ans.
Votre patient, Jean-Marcel Mourgue, à quel âge qu'on va voir là?
87. Bonjour, monsieur. Comment ça va?
Ben, ça va.
Bon, vous êtes seul?
Oui, oh non, ma voisine va monter.
Je l'ai D'accord. Appelé. Bon, j'ai pensé à vous avec le PSG, là. Hein?
Oui, ils vont gagner.
Hein. Oh, vous croyez? Oh, contre ça... le Bayern, c'est un gros morceau. Hein.
Oui, oh, quand même.
Bon, toujours aussi fun. Hein.
Michel, pendant... tout le début de cette épidémie, vous avez perdu du poids et vous avez perdu aussi de l'autonomie au niveau de la marche. Ouais. Comment allez-vous déjà aujourd'hui?
Ça va.
Est-ce que ça va mieux?
Oui, ça va.
Ça a été difficile pour vous cette période?
Ah oui, bon, de toute façon, la plupart du temps, je suis toujours tout seul à la maison. Hein. Ça n'a pas changé beaucoup. Mais si j'ai besoin de quelque chose, je vais voir Edith... Elle me dépanne.
Edith, vous êtes la voisine et
oui.
Vous aidez vraiment Michel dans sa vie
oui.
quotidienne. Vous l'avez vu comme ça se laisser glisser pendant toute cette période?
Oui, un petit peu. Parce que l'infirmière ne venait qu'une fois par semaine pour la douche au lieu de trois fois par semaine. Et ça l'a handicapé, Michel. Pour les repas, c'est moi qui faisais. Mais quand même, je pense que l'infirmière, les soins auraient dû continuer comme avant, je pense. C'est-à-dire trois fois par semaine.
Oui.
Pour la douche et la présence au moins trois fois par semaine.
Du coup, il s'est laissé un petit peu glisser.
Un petit peu, oui. Ouais. Oui. On essayait de monter un peu plus, d'essayer de se voir un peu plus avec les voisines, de monter souvent le voir, de pas le laisser le jour de Pâques tout seul. J'ai réuni les personnes dans l'immeuble. On a fait un petit repas ensemble.
Pour les personnes âgées à domicile, cette période a été et est toujours difficile parce
Très
qu'elle
dur.
Est synonyme d'isolement.
Oui. Et moi, je ne pouvais pas promener Michel dans la rue, je ne pouvais pas le tenir par la main, je ne pouvais pas le sortir pendant le confinement. Donc, à part marcher sur la terrasse, c'est tout ce qu'il faisait.
Jean-Marcel Mourgue, donc Michel est un de vos patients. Aller le voir à domicile, c'est aussi une manière d'aller le récupérer un petit peu, de le ramener à la vie?
Oui, et puis pouvoir faire aussi une expertise médicale élargie, médico-sociale. Apprécier la personne dans son environnement quotidien. Et c'est une source considérable de renseignements. On voit bien que les choses sont dites avec beaucoup de pudeur. Là, Michel n'aime pas se plaindre. Il y a cette pudeur et cette fierté aussi de pas vouloir se plaindre et quémander de l'aide. Mais les réalités étaient là. Il marchait voûté avec vraiment des problèmes très sérieux de la marche. Il avait décollé sur le plan du poids, même Edith le dit, mais avec parcimonie en disant un peu. Et effectivement, c'est le témoin parmi d'autres de ce décrochage de nos seniors qui se seront trouvés isolés par les conséquences de ce confinement.
Si c'était à refaire, il faudrait maintenir quand même des aides à domicile pour cette catégorie.
Certainement, certainement. Il est souhaitable qu'il y ait un retour d'expérience de telle façon qu'on ne laisse pas ainsi s'éteindre un petit feu parfois, certaines personnes dans la solitude. Et comme vous en avez eu l'expression d'une dame que nous avons rencontrée au perron de l'immeuble, il y a parfois un cri de colère de ces personnes âgées vis-à-vis de la période qu'elles ont traversée. Bon, à bientôt Michel. Oui. Au revoir.
Au revoir.
Bonne journée à vous.
Oui.
Au revoir, Edith.
Bonne journée.
Au revoir.
La double peine des personnes âgées face au Covid, c'était un reportage de Géraldine Allot avec une prise de son de Lucien Lefebvre. Reportage disponible en réécoute sur franceinter.fr. Réalisation Violaine Ballet, assistée de Martine Messonnier. Mixage d'Ophar Guéride. La semaine prochaine, on s'intéressera avec Cécile Soulet au phénomène dit du burn-out parental. Méconnu, il concerne pourtant de nombreux parents en détresse devant la difficulté d'éduquer leurs enfants. Dans quelques instants, on retrouve Eva Bester pour Remède à la mélancolie.